Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la fête d'aujourd'hui est la clôture solennelle du temps de Noël. À la messe, nous avons d'ailleurs chanté, nous allons avoir la préface de la Nativité. Et entre l'Épître et l'Évangile, nous avons chanté la séquence dominicaine de Noël. Cette fête de la purification de la Sainte Vierge et de la présentation de Jésus au Temple a été instituée en mémoire du jour où la Sainte Famille se rendit au Temple de Jérusalem pour observer la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Pour connaître ce que l'Église a surtout retenu de cet épisode, il faut se tourner bien sûr vers la liturgie. On y voit que les textes de la messe et du bréviaire célèbrent avant tout la première entrée de Jésus enfant dans le temple. Ainsi l'introïte et le graduel. Ô Dieu, nous avons reçu votre miséricorde au milieu de votre temple. De même l'épître tirée du prophète Malachie. Le Seigneur Dieu dit, voici que j'envoie mon messager qui fraiera le chemin devant moi, et aussitôt viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. La liturgie nous invite alors à aller à la rencontre de notre Sauveur, à l'exemple du vieillard Siméon. Ainsi, la première antienne que nous avons chantée à la procession, Sion, c'est-à-dire Jérusalem, c'est-à-dire l'Église, prépare ta demeure pour accueillir le Christ roi. Ouvre les bras à Marie, la porte du ciel. La voici qui porte le roi de gloire, le flambeau de la nouvelle lumière. La liturgie aujourd'hui est même très concrète. Elle nous fait marcher sur les pas de Siméon à la rencontre de Jésus, dans une belle procession où nous tenons des cierges allumés. La lumière de ces cierges signifie le Christ, qui est la lumière du monde. Lumière pour éclairer les nations, dit Siméon. Notre Seigneur est la lumière du monde parce qu'il est la vérité. Il l'a affirmé lui-même, ego sum veritas. Il est la vérité parce qu'il est le Verbe de Dieu, expression parfaite et complète de la sagesse divine infinie du Père dont il procède, et lui-même sagesse divine infinie égale à celle du Père. Dans son encyclique Quas Primas sur le Christ roi, le pape Pie XI en conclut que notre Seigneur est le roi des intelligences humaines et qu'il est nécessaire aux hommes, dit-il, de puiser auprès de lui la vérité et de la recevoir avec soumission. Ceci est symbolisé dans une autre procession, celle de la vigile pascale, où nous allumons nos cierges, au cierge pascal qui représente notre Seigneur ressuscité. Mais comment notre Seigneur éclaire-t-il notre intelligence? Par le don de la foi. Le pape Saint-Pie X a condamné les modernistes pour qui la foi est un sentiment religieux naturel qui vient du plus profond de l'homme, qui est donc le résultat d'une expérience personnelle. C'est ce que l'on entend sans cesse dans l'Église maintenant jusqu'au plus haut sommet. Non, la foi est un don surnaturel qui vient de Dieu. Parce que les vérités que notre Seigneur est venu nous révéler et qui nous ont été transmises par l'Église, ces vérités ne pouvaient pas être découvertes par l'intelligence humaine laissée à ses propres forces. Le fait que Dieu soit en trois personnes, la providence qui gouverne nos vies, le sens des épreuves, ce qui attend les hommes après la mort, etc. Avoir la foi, c'est accepter la grâce qui permet à notre intelligence de se soumettre à toute cette révélation et de s'y soumettre à cause de l'autorité de Dieu qui nous a parlé par son Fils. Et c'est pour cela que la foi disparaît aujourd'hui de ce monde, parce qu'il répugne à l'homme moderne de se soumettre. Une foi moderniste qui vient de l'homme lui convient tout à fait. Et finalement, si l'homme se sent mieux d'être bouddhiste, musulman ou autre, pourquoi ne le serait-il pas alors? Voilà pourquoi les hommes d'Église actuels, qui ont une fausse conception de la foi, admettent toutes les autres religions et ne leur demandent plus de se convertir. En septembre dernier, au Kazakhstan, devant 110 délégations représentant toutes sortes de religions, le pape François a eu ces paroles. Fils et filles du même ciel, nous sommes tous en marche vers le même but céleste. Un peu plus loin, il a parlé de la marche des religions vers le ciel. C'est tromper ses interlocuteurs que de tenir de tels discours, car ils se trouvent dans des religions qui ne peuvent pas conduire au ciel, qui ne peuvent pas conduire au salut, parce qu'il n'y a qu'un seul Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, dit saint Pierre. Et le pape François n'a pas prononcé une seule fois ce nom pendant son long discours aux représentants des autres religions. Le seul nom qu'il a cité, et très souvent, c'est celui d'un écrivain musulman. Mais si les hommes n'acceptent pas notre Seigneur, seule lumière du monde, s'ils n'acceptent pas le don de la foi, ils restent dans les ténèbres. Leur vie se déroule dans l'illusion, aveugle et conducteur d'aveugles, dit saint Augustin. Les conséquences en sont dramatiques, puisque sans la foi, sans la vraie foi, personne ne peut plaire à Dieu, dit saint Paul. L'obéissance de notre intelligence, c'est le premier acte d'obéissance que les hommes doivent à Dieu. C'est le premier parce que chez l'homme, l'intelligence est le sommet de son être. C'est ce qui le caractérise d'abord dans l'univers visible. Son premier acte doit être donc d'en faire l'hommage à son Créateur. Et s'il le fait, il reçoit la lumière et toute sa vie prend un sens. Si notre vie chrétienne n'est pas superficielle, nous devrions ressentir le besoin d'éclairer notre intelligence, de nourrir notre foi continuellement par la lecture religieuse. L'Écriture sainte, la doctrine, les livres de vie spirituelle, les vies de saints, afin de découvrir toujours mieux ces vérités pour lesquelles nous avons été créés et dont la contemplation fera notre bonheur dans l'éternité. Que de temps l'on peut perdre aujourd'hui sur les écrans et qui n'apporte rien, qui vide même l'intelligence. Mais il ne suffit pas d'accepter le don de la foi dans notre intelligence. L'homme a aussi une volonté qui tend vers le bien, qui est attirée par le bien. Qu'est-ce qui pourra la combler pour qu'elle ne désire rien d'autre? Combien d'expériences malheureuses les hommes devront-ils faire en cherchant leur bonheur en dehors de Dieu, dans tout ce que le monde propose aujourd'hui comme but de la vie, la richesse, les plaisirs sensuels, l'ambition, etc. Toutes sortes de choses qui peuvent donner un certain temps une impression de bonheur, mais qui laissent ensuite derrière elles l'insatisfaction, l'amertume, le dégoût. Que les hommes d'aujourd'hui écoutent plutôt sainte Thérèse d'Avila leur dire « Dieu seul est plus grand que l'âme ». Oui, notre âme est si grande que seul l'infini pourra la combler. Et comment pouvons-nous donner l'infini à notre âme? Eh bien, en donnant notre volonté à notre Seigneur, en unissant notre volonté à la sienne. Qu'est-ce qui unit notre volonté à celle de notre Seigneur? C'est la vertu théologale de charité qui est en nous lorsque nous sommes en état de grâce. Et nous pouvons revenir ici au symbolisme du cierge expliqué par les pères de l'Église. Si la flamme représente Jésus-Christ dans sa divinité, Verbe de Dieu illuminant nos ténèbres, le cierge lui-même représente son humanité. La cire, fabriquée par l'abeille virginale, signifie la chair vierge de notre Seigneur, tandis que la mèche qui est à l'intérieur représente son âme. Lorsqu'il vit la Sainte Famille dans le Temple, le vieillard Siméon, éclairé intérieurement par le Saint-Esprit, prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu. Une antienne du bréviaire fait cette remarque très profonde. Le vieillard portait l'enfant, mais c'est l'enfant qui dirigeait le vieillard. Senex puerum portabat, puer autem senem regebat. Ce cierge que nous tenons dans la main nous rappelle que nous devons porter le Christ en nous afin d'être conduits par lui dans la vie. Et où Jésus nous conduit-il? Siméon a donné la réponse en se tournant vers Notre-Dame. Ce n'est pas dans le texte de l'Évangile de ce jour, mais c'en est la suite dans Saint-Luc. Voici que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, et pour être un signe de contradiction. Et vous-même, dit-il à Notre-Dame, un glaive transpercera votre cœur, afin que les pensées d'un grand nombre soient dévoilées. Ce mystère de la présentation de Jésus au Temple, au milieu des mystères joyeux de notre rosaire, est la révélation de la croix. La très sainte Vierge le savait à l'Annonciation, lorsqu'elle a dit son fiat à la parole de l'ange. Mais aujourd'hui, le vieillard Siméon le lui confirme. Si notre Seigneur est venu sur la terre, c'est pour monter sur la croix, afin de sauver les âmes de bonne volonté. Parce que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans sa sagesse divine, dit saint Paul. Alors il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs qui voulaient un Messie leur faisant dominer le monde, et folie pour les païens qui ont horreur de la croix car ils cherchent le paradis sur terre. La croix de Jésus sépare donc le monde en deux. Il y a ceux qui l'acceptent et il y a ceux qui la rejettent. Et comme le dit Siméon, c'est la croix qui dévoile les pensées d'un grand nombre, qui dévoile ce que sont vraiment les hommes au-delà des apparences extérieures, selon qu'ils acceptent ou selon qu'ils rejettent la croix de Jésus. Alors en cette fête de la purification de Notre-Dame et de la présentation de Jésus au Temple, demandons la grâce d'abord de faire régner toujours plus notre Seigneur sur notre intelligence, qu'il soit en toute occasion notre référence, la lumière qui éclaire toutes nos pensées, tous nos jugements. Et puis demandons la grâce de lui offrir par amour, en toute confiance, notre volonté, afin qu'il nous conduise au ciel par les voies qui sont les siennes. Et nous savons que ce sera par la croix, croix des sacrifices de nos devoirs quotidiens, croix des difficultés, des soucis, des épreuves de cette terre, tout cela toujours permis pour un plus grand bien, pour réparer nos péchés, pour nous purifier en vue de la gloire et pour sauver les âmes avec Jésus. Demandons tout cela par Notre-Dame, qui en ce jour a renouvelé son fiat de l'Annonciation. Qu'elle nous entraîne dans son offrande et qu'elle nous présente à son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.